Buongiorno.
Vous aimez le cinéma ?
Beaucoup.
Cinérama.
Qu'est-ce que c'est ?
Actualité cinéma et tout le reste.
Ça te satisfait ?
Intensément.
Sur Divergence FM.
J'aime bien discuter des films, vous voyez, et échanger des critiques.
Cela ne peut que nous réunir.
Prenez le chemin habituel. La radio. La radio.
Ici, avec nous.
Le silence va plus vite à reculons.
Eh bien, je vous écoute.
Bonjour et bienvenue à l'émission Cinérama, première émission de 2011. Bonjour Martin.
Bonjour Vincent, bonjour à tous.
Et donc, on va faire vite, on va faire un petit sommaire. L'émission est relativement copieuse aujourd'hui.
Oui, on a plusieurs sujets. Alors déjà, bonne année à tous. J'espère que vous avez passé de bonnes fêtes. Moi aujourd'hui je vais vous parler de deux films principalement. Alors le premier c'est la dernière production des studios Ghibli, Arrietty ou le petit monde des chapardeurs. Et dans un deuxième temps je vous parlerai un petit peu de l'accordeur de tremblements de terre des frères Coen, puisqu'il y a une séance demain au Diagonal Capitole, demain à 19h50, séance unique de ce film. Donc je ferai un petit retour sur les frères Coen et sur ce film.
Et puis moi, je parlerai du Nom des gens, enfin le Nom des gens, un film réalisé par Michel Leclerc qui est en salle depuis fin novembre déjà, ce qui est assez remarquable. C'est un film qui marche très bien avec le bouche à oreille. Je parlerai aussi du Festival Chrétien, ou plutôt c'est le père Douméron qui en parlera, Festival Chrétien qui se déroule du 22 au 30 janvier, salle Rabelais à Montpellier. Et puis je tenterai de parler de We Are Four Lions de Chris Morris, ce film autour de ces quatre Pakistanais qui tentent de rentrer dans le djihad en Angleterre. J'ai pas pu préparer un quiz spécial film de terroriste parce qu'il manquait de matière finalement, mais j'espère y arriver pour la semaine prochaine.
Alors, je commence donc avec Arrietty. Ce sont les studios Ghibli à qui l'on doit Mon voisin Totoro, Le tombeau des Lucioles ou encore Le voyage de Chihiro, qui produisent le premier long métrage de Hiromasa Yonebayashi, donc Arrietty et le petit monde des chapardeurs. C'est la cinquième adaptation à l'écran de la saga de Marie Norton, Les chapardeurs ou The Borrowers en anglais, après trois téléfilms et un long métrage en prise de vue réelle sorti en 1997. Alors Yonebayashi, qui a travaillé sur plusieurs films de Hayao Miyazaki, dont le dernier en date, Ponyo sur la falaise, se lance pour la première fois dans la réalisation d'un long métrage sur un scénario du maître. Alors le monde des chapardeurs, c'est celui d'Arrietty, une jeune fille de 14 ans, pas plus grande qu'une sauterelle. Avec sa famille, elle vit sous le plancher d'une maison, dérobant aux humains les objets dont ils ont besoin pour survivre. Et de rapine en larcin, la petite Arrietty découvre un monde démesuré, magnifique et hostile, où le moindre rebord de table est un précipice et où le chat de la maison est un tigre de la taille d'un éléphant. À force de maladresse, Arrietty se fait voir par un petit garçon malade venu se reposer chez sa tante avant une opération. Et le film est l'histoire de leur rencontre. J'ai 14 ans et je suis jolie. Voilà qui résume assez bien cette production Ghibli à laquelle la Walt Disney Company a participé. Une fable enfantine qui réjouira la collégienne qui sommeille en vous et qui fera battre le cœur du petit garçon caché sous la grosse brute que vous êtes devenu. Alors, partant de ce postulat qui rappelle L'homme qui rétrécit ou Chérie, j'ai rétréci les gosses, pour les personnages miniatures confrontés à un quotidien aux dimensions de géants, Arrietty nous propose surtout un voyage merveilleux dans un environnement d'une grande richesse. Le film fourmille de détails et l'animation est de toute beauté. En quelques plans, Yonebayashi fait souffler un vent frais sur les spectateurs. La nature est magnifiée, comme souvent dans les productions Ghibli, et chaque décor est digne d'un tableau de maître. Malheureusement, cette démonstration de talent dans le graphisme semble un peu gaspillée par la simplicité et le manque d'originalité du scénario. On aurait aimé retrouver la folie, l'imaginaire et la dimension épique des précédentes histoires de Miyazaki, mais ici, il contourne étrangement plusieurs pistes prometteuses. Un exemple, notre héroïne trouve une fine épingle de couture lors de sa première expédition au chapardage. Alors pour elle, cette épingle a la taille d'une épée, et avec un tel trophée, on se doute que la frêle Arrietty va bientôt être confrontée à un adversaire monstrueux, un rat, une araignée, comme dans le film de Jack Arnold, L'homme qui rétrécit, et pourquoi pas le chat qui essaye de la croquer depuis le début du film. Mais non, la fine lame restera sagement rangée et ne servira pas, ou si peu. À aucun moment, les dangers auxquels devrait être confronté un personnage de 10 cm ne sont pleinement exploités, et le monde des chapardeurs semble à peine inquiétant. Donc si les amateurs d'aventure risquent d'être un peu déçus, les romantiques seront eux comblés, même s'il aurait peut-être fallu un peu plus de souffle, un peu moins de musique sirupeuse aussi, pour transformer cette histoire d'amour impossible en vraie passion romanesque. Le passage à l'âge adulte, la pudeur des premiers sentiments amoureux, le secret, tout cela est traité avec finesse, sans naïveté, avec de belles idées, comme ces premières rencontres entre le petit garçon et Arrietty, traitées en ombre chinoise. Donc restent quelques séquences mémorables, comme la scène hilarante du corbeau, celle de la première excursion construite à la manière d'un film de casse, ou l'arrivée de la nouvelle cuisine dans la maison des chapardeurs. Mais dans l'ensemble, ce premier film de Yonebayashi manque d'un petit quelque chose qui aurait hissé le réalisateur au niveau de ses aînés Miyazaki et Takahata. Ça reste malgré tout infiniment plus recommandable qu'Arthur et les Minimoys. Donc n'hésitez pas à vous organiser une petite séance en famille.
C'est jamais très évident. Enfin, je pense que ça ne va pas arriver tout de suite, d'ailleurs, d'arriver au niveau de Miyazaki.
C'est sûr. Voilà, pour un premier long métrage, c'est déjà très beau au niveau graphique. Après, c'est vrai que le scénario, peut-être que c'est l'adaptation aussi qui fait que voilà, c'est un petit peu resserré, un peu moins original que Le Voyage de Chihiro, Princesse Mononoke,
Nausicaa, La Vallée du Vent.
Voilà,
j'en passe.
Des films qui sont vraiment délirants, qui ont un grain de folie.
Mais voilà. en même temps, comme tu l'as dit, hein, je crois, il y a une patte Ghibli, quoi.
Oui, ça, par contre, on retrouve vraiment le style des maîtres de Miyazaki, Takahata, etc.
Et la musique, donc, interprétée par une jeune française. Hein,
alors, je n'ai pas pris le nom de l'interprète, mais c'est vrai que alors, la chanson a cartonné au Japon. Le disque s'est vendu à des dizaines de milliers d'exemplaires. Le film aussi a cartonné, ce qui est plutôt bien pour les studios Ghibli. Et pour Miyazaki, qui depuis un certain temps veut passer la main, parce qu'il est fatigué, le vieux Miyazaki.
Ah oui. Alors nous allons passer à tout autre chose, puisque cette fois-ci, eh bien, c'est la comédie Le Nom des gens, réalisé par Michel Leclerc avec Jacques Gamblin, Sarah Forestier et Zinedine Soualem. Alors c'est un film qui est sorti le 26 novembre et qui est toujours en salle. Alors au moins au cinéma Utopia, qui laisse le temps au film de se faire une vie sur les écrans, mais aussi au Diagonale. Alors on a coutume de dire que les films qui ont un succès de bouche à oreille, car il s'agit bien de cela, soit un vrai succès public, ce sont les films dramatiques. Alors on choisira comme exemple eh bien, Des Hommes et des Dieux, hein, de Xavier Beauvois, qui continue tranquillement sa carrière, mais quand même bien aidé par son prix à Cannes. Et puis il y a aussi les comédies, qui généralement marchent bien. Alors c'est ainsi que ça se passe pour les compétitions court-métrage. Le prix public revient à un film très sombre, pétri d'humanisme, ou à une comédie bien ficelée, auréolée d'une bonne maxime. Le Nom des gens est donc une comédie, et plutôt gonflée, pour ne pas dire politiquement incorrecte, avec deux personnages centraux. Alors il y a Baïa, interprété par Sarah Forestier, et Arthur Martin, interprété par Jacques Gamblin. Alors faisons connaissance avec le trait caractéristique du personnage de Baïa. Étant certaine qu'on ne peut convaincre un opposant politique par le discours, elle couche avec l'ennemi pour le rallier à sa cause, la gauche, l'humanisme, l'anti-individualisme.
Parce que moi je peux faire des grandes choses avec mon cul-de-sac. Mais regarde, quand tu discutes avec quelqu'un qui est pas d'accord avec toi, on n'arrive jamais à le convaincre. On y arrive beaucoup mieux par le sexe, je promets. Viens, je t'ai ramené mon cahier. Regarde lui par exemple. Quand je l'ai rencontré, il était le responsable jeunesse de la section UMP du Pas-de-Calais. T'imagines ? Comment on peut être jeune et UMP ? Et regarde la tête qu'il a maintenant. Il élève des moutons dans le Périgord. C'est pas génial ? T'as vu ? Lui, c'était un vieux boursicoteur de merde, et ben maintenant, il fait des crêpes sarrasins. Lui, il était président d'un club de quad, maintenant, il fait de la capoeira. Bon, tu vois, évidemment, le temps de conversion, il varie selon le degré de connerie du gars. Pour un mec du FN, il me faut bien au moins 10 jours. Alors que pour un fan de Bayrou, en une après-midi, c'est plié.
Mais pourquoi le quad?
Pourquoi le quad? C'est des fachos. Tu savais pas? Le quad, c'est super facho.
Mais moi... Pourquoi moi? Je vois de Jospin.
Bah, toi, c'est pas pareil. Toi, tu me plais?
Et oui, comment peut-on être jeune et de l'UMP? Alors, des questions qui resteront en suspens, car le film ne traite pas de cela, mais emprunte avec le personnage de Baya des raccourcis, des jugements spontanés, des frayeurs idéologiques aussi. Nous sommes dans l'après-deuxième tour de 2001.
Qu'est-ce qu'il y a, ça va pas?
Il est où, t'es Chirac? C'est horrible.
Le quad, c'est facho. Le mec de droite est facho. Élevé dans une famille avec une mère hippie et un père sans papier, la jeune Baya a toujours baigné dans un milieu militant. Ses jugements sont loin d'être arbitraires, mais ils sont pour le moins définitifs. Son engagement est troublant et inattendu, son prosélytisme souvent couronné de succès. Et elle conserve tout le long du film une joie de vivre, une spontanéité qui n'est pas pour rien dans la réussite du film. Alors avec elle, Arthur Martin, un spécialiste des épisodies animales, gourou du principe de précaution et jospiniste. Alors autant dire que ça n'est pas une cible pour Baya, il n'est pas facho et qu'on aurait peine à imaginer qu'ils puissent s'entendre. Et pourtant, c'est Arthur Martin, fils d'une mère juive et d'un père ayant travaillé dans le nucléaire, éduqué dans l'oubli de la Shoah parce que le grand-père a été victime d'une rafle, eh bien, il va s'entendre à merveille avec Baya Ben Hamoud, avec quelques éclats. Parce que l'écart entre ces deux personnages, la bavarde et le précautionneux, ne peuvent donner que des étincelles. Et on vivra un dîner avec les parents où Baya devra absolument éviter de froisser la belle famille. Un véritable défi pour une fille aussi spontanée. Voici les préparatifs au repas.
Le réchauffement de la planète ?
Réchauffement de la planète égale pétrole. Qui dit pétrole dit nucléaire. Et surtout, tu ne parles pas de ça, mon père. Je te connais, tu vas l'énerver.
Bon, bah, je sais pas, moi. Qu'est-ce qui me reste ? Les bouchons dans Paris ?
Tu rigoles ou quoi ? Bouchon dans Paris égale taxi, taxi égale le grand-père égale Auschwitz. Et surtout, je ne veux aucune allusion à ce sujet.
Non mais attends, en fait, on peut parler de rien avec tes parents?
Exactement. Moi, ça m'a pris des années à trouver des sujets qui ne parlent de rien.
Ah, ça va être super, la soirée.
T'avais qu'à pas les inviter.
Toutes les scènes sont ainsi vivantes, drôles, faisant autant intervenir un comique burlesque de situation ou des bons mots. Michel Leclerc a une large palette d'effets pour évoquer avec drôlerie la Shoah, l'inceste, l'immigration et l'identité nationale, les stéréotypes de la société française, du militant borné et râleur au conformisme des classes moyennes. Le nom des gens est un condensé de société vu sous l'angle de personnages tous bien campés, comme le père de Baya, immigré habile de ses mains, qui occupe son temps libre à aider les autres plutôt qu'à parfaire son art de la peinture, et tout cela par excès de modestie.
C'est beau ce que tu fais.
Ah, non, ça, c'est rien.
Tu voudrais pas qu'on présente tes peintures à une galerie?
Ben si, je peux pas aujourd'hui. Je dois dépanner avec Léo de Madame Martinez.
Non, mais pas aujourd'hui, un autre jour.
Un autre jour, je pourrais pas non plus. J'ai le sèche-linge des Médina, le radio réveil des Belkacem, le scooter du Pitoufik. Et t'inquiète pas, j'ai besoin de rien.
Mais papa, moi j'ai envie de te faire plaisir.
Le plaisir, ça sert à rien. Garde-le pour toi.
Il est totalement impossible de faire plaisir à mon père. Et ça m'énerve. T'as vu, j'ai réussi à les convaincre de les regarder et ça leur a plu tout de suite.
Ouais, ouais.
Mais est-ce que tu te rends compte ce que c'est que d'être exposé ici de ton vivant?
Ouais, je suis très content, Betty. Mais je vais devoir y aller. J'ai le grille-pain de Madame Pupovac. Ils ont plus de pain grillé le matin, c'est embêtant.
Mais putain, papa! Gauguin, Van Gogh, Ben Mahmoud!
Ah ouais, c'est joli. Mais tu sais, sans pain grillé, le matin, c'est dur.
Le nom des gens est une comédie, un film avant tout, reflet de notre époque. Et c'est peut-être pour ça qu'il faut le voir maintenant, car dans 10 ans, il aura sûrement perdu de sa superbe. Et le nom des gens donc est projeté encore dans 2 cinémas à Montpellier. Alors il s'agit du cinéma Utopia et du cinéma Diagonale.
Alors je te rejoins complètement sur ce film, je vous le conseille, c'est une très jolie petite comédie française à voir pendant qu'il est encore à l'affiche.
Pas prétentieuse, plutôt culottée. Alors j'ai pas parlé aussi au niveau formel, il y a un petit début à la Amélie Poulain avec le narrateur, le jospiniste, et puis ensuite Baya prend le relais, enfin voilà. Là on l'entend, parfois il participe à la voix off, voilà.
Voilà, et les comédiens sont tous très bons, Gamblin,
Sarah Forestier,
Zinedine Soilem.
Ouais. Elle traverse tout le film, Sarah Forestier.
Alors on va passer à quelque chose de très différent, sortir de la comédie pour aller vers l'expérimental. Après vous avoir parlé dans cette émission de Guy Madine, de Quentin Dupieux ou encore de Phil Mulloy, il est temps de rencontrer deux autres originaux du cinéma. Alors dans la famille des réalisateurs farfelus, je demande les frères Coué. Alors qui sont les frères Coué ? Stephen et Timothy Coué sont deux jumeaux, plasticiens et animateurs de grand talent. Ils naissent en 1943 aux États-Unis et s'intéressent très tôt aux arts plastiques. Donc après avoir suivi les cours du Philadelphia College of Arts, ils s'exilent en 1969 au Royal College of Arts de Londres. Ils se passionnent pour l'animation en volume et réalisent plusieurs courts-métrages pendant leurs années d'études. Leur style est influencé par différents artistes dont ils s'imprègnent, explorent les œuvres et s'approprient les thématiques. Au panthéon de leurs références cinématographiques, Valerian Borowczyk et Jan Lenica, deux Polonais, et Jan Svangmajer, un Tchèque, tous trois réalisateurs de films d'animation surréalistes, ainsi que Louise Bunuel, qu'on ne présente plus. Alors en 1986, ils réalisent Rue des Crocodiles, un de leurs courts les plus marquants, d'après un auteur polonais, encore une fois. Une marionnette dont le fil a été coupé erre dans une ville fantomatique et traverse la fameuse rue des crocodiles. En 1995, ils réalisent leur premier long métrage, Institut Benjaminta, or This Dream People Call Human Life, ou ce rêve que les gens appellent la vie humaine. Puis, après ce premier long métrage, retournent au format court et à des projets divers pendant 11 ans. En 2006, ils sortent leur second long, L'accordeur de tremblements de terre, avec Amira Kazar, Gottfried John et César Sarachou. Alors ce film, L'accordeur de tremblements de terre, c'est une plongée en apnée dans l'univers fantasmagorique des deux frangins. Le film nous invite dans la propriété du docteur Droz, un savant dévoré par la passion qu'il voue à la belle cantatrice Malvina Van Steele. Pendant une représentation, Droz tue Malvina et l'emporte dans son manoir au bord de la mer. Une fois sur place, il ressuscite la belle et contacte un accordeur de piano pour lui confier une tâche délicate, accorder 7 automates de sa fabrication et participer à un opéra grandiose, un projet fou de magie noire et de science bizarre à la hauteur de l'amour que Droz porte à la cantatrice. Dans ce conte qui convoque aussi bien l'expressionnisme allemand que Jean Cocteau, en passant par Jules Verne, les frères Coué condensent tout ce qui fait leur style. Les objets qui prennent vie, les automates, la poussière, la rouille, les marques du temps qui passe. Cette atmosphère éthérée, presque compassée, et une petite dose d'humour absurde et cruel. Les personnages se transforment progressivement en pantins entre les mains du docteur Droz. L'accordeur tombe amoureux de la cantatrice et se condamne à jouer le jeu machiavélique de son hôte. Peu à peu, les automates qu'il doit accorder lui volent son âme et lui font perdre la raison. Et dans ce rêve éveillé, difficile de savoir s'il dort ou si la réalité s'est détraquée au point de ressembler à un songe. Alors si je devais comparer le travail des frères Coué avec celui d'un autre cinéaste, ce ne serait pas Terry Gilliam, bien qu'il apparaisse au générique du film comme producteur délégué, mais plutôt Guy Madine. Donc la confrontation avec les films de Madine me semble pertinente, puisque lui aussi utilise une image rétro, vieillie volontairement. Il utilise très souvent le 8mm, le noir et blanc, les incrustations argentiques. Et en plus de partager un vrai projet esthétique, Madine et les frères Coué s'intéressent à l'onirisme, et au fantasme. Donc entre le Canadien et nos deux exilés, les points de comparaison sont nombreux, et pour les spectateurs qui apprécient les œuvres expérimentales et poétiques, il y a matière à trouver son bonheur. Alors l'accordeur de tremblement de terre est au final moins sombre et plus maniéré que certains cours des frères Coué, et les comédiens sont parfois un peu écrasés par la puissante symbolique des décors et des situations. Dans l'ensemble, on apprécie la beauté des images, l'implication des comédiens et les jeux esthétiques entre l'animation et les prises de vue normales, mais le montage répétitif et les digressions du scénario pourront en rebuter certains et en ennuyer copieusement d'autres. Pour ma part, c'est un film que je vous conseille. Et en parlant de digressions, je vais vous laisser avec le bon Dr. Droz et l'une de ses histoires merveilleuses. Pour avoir les sous-titres, il faudra voir le film.
Have you ever heard of Megaloponera foetens, Mr. Filisberto? It's an ant that lives in the Cameroonian rainforests. a forager of the forest floor,
which from time to time becomes infected through inhaling the microscopic spore of a fungus that rains down from the trees above and lodges in its tiny brain. That starts to grow. Troubled and disoriented, this ant is driven to leave the forest floor and starts to climb up the stems of ferns and creepers till it reaches some seemingly predetermined height, at which point it clamps its mandibles onto the plant and waits there until it dies. As for the fungus, it lives on, eating the dead creature's brain and infiltrating its entire nervous system, until at length, some few weeks later, it excretes a sort of spike through the remains of the insect's head. And this rampant prong teems with spores, which in their turn shed themselves onto the ground below, raining down for the next unsuspecting floor foraging ant.
Voilà une belle histoire de l'oncle Droz, du docteur Droz. Donc c'était un extrait de L'accordeur de tremblement de terre des frères Coué, un film qui passe en séance unique demain au Diagonal Capitole à 19h50. Voilà un film que je vous invite à aller voir pour vous faire une idée de la chose.
Merci Martin. On fait une sorte de pause ou une respiration avec une partie actu de Cinérama. Du 22 au 30 janvier, salle Rabelais, se déroule le festival chrétien du cinéma, et pas le festival du cinéma chrétien, hein, parce que c'est pas la même notion. On va écouter eh bien, une interview du père Douméron, qui va nous parler un peu de ce qui s'y passe lors de ce festival chrétien du cinéma, et puis après on parlera du programme.
Au départ, même la presse disait toujours « c'est le festival du cinéma chrétien ». Je ne sais pas ce que ça voudrait dire, cinéma chrétien. Mais je suis un festival chrétien, c'est-à-dire que j'ai un regard de sympathie par rapport à la vie de l'homme. Or, le cinéma, c'est le lieu privilégié où on nous montre des états de vie. Alors, ce n'est pas toujours des états de vie qu'il faut bénir et sanctifier. Il y a des choses scandaleuses, mais elles existent. Il y a des hommes et des femmes qui le vivent. Donc on se dit, pourquoi ne pas aussi accepter que cela se fasse et qu'on puisse peut-être réfléchir pour voir comment on peut, dans notre petite mesure, aider des hommes et des femmes qui sont en difficulté.
Atteindre ce niveau de réussite depuis l'enfance, c'était mon but.
L'argent est un danger. Hein ? Tu adoreras Dieu ou maman, mais c'est un danger. L'argent est nécessaire. Vous parlez, vous avez des micros, vous avez acheté, etc. On a besoin. Mais quand on en fait un Dieu capable de tout sacrifier, et dans le film que nous présentons, nous voyons effectivement quelqu'un qui se laisse absolument submerger par le besoin d'argent et qui détruit tout autour de lui, ça devient dangereux, quoi. Alors c'est vrai au niveau de la société habituelle, mais c'est vrai aussi au niveau des États. Enfin, quand on voit ce qui se passe aujourd'hui, que des jeunes se voient assassinés en plein désert, ces hommes du désert, c'est pas eux qui ont créé les armes. On les leur a vendues. Donc il y a des pays qui s'enrichissent en favorisant le crime et le terrorisme. Nous disons, c'est pas possible. Voilà, c'est le danger, quoi. Hein. Alors, bon, on n'est pas des leçeurs de leçons, on n'est pas des donneurs de leçons, mais on est quand même des hommes et des femmes qui réfléchissent et qui disent, ça suffit, quoi. Il y a autre chose à faire que de tuer les gens. Vous savez, au départ, quand on parle avec l'équipe, on arrive à peu près à sélectionner près de 80-85 films. Et puis petit à petit, on évacue, d'abord parce que certains ne sont pas disponibles, et puis parce que d'autres, au fur et à mesure qu'on les visionne, non, vraiment ça ne nous intéresse pas. Vous avez là, quand même, dans les 15 films qui sont là, des films qui ont certainement un intérêt, qui ont été soutenus par deux ou trois membres de l'équipe. Il y a eu des visionnages, et puis on se dit, mais au fond, pourquoi pas? Même si on n'a pas toujours les mêmes sensibilités. Donc je crois que la programmation que nous vous présentons est une programmation qui à une certaine ouverture. Chacun doit y trouver quelque chose. Alors c'est vrai que le film d'ouverture, Si nous millionnaire, est particulièrement intéressant. D'abord parce qu'il est bien joué, parce qu'il y a de la vie, parce qu'il y a des jeunes qui sont impliqués là-dedans.
Le Taj Mahal a été construit par l'empereur Khurram pour sa femme Mumtaz, qui était la championne du monde de beauté à l'époque. Alors, quand elle est morte, l'empereur a décidé, pour lui faire plaisir, de faire construire un hôtel 5 étoiles pour les centaines de milliers de visiteurs qui venaient sur sa tombe. Mais lui aussi décédant en 1587. bien avant que toutes les chambres soient prêtes et qu'on ait fait les ascenseurs. Mais comme vous le constatez, la piscine a été terminée dans les délais. Et le résultat est super stylé.
Rien de tout cela n'est dans le guide pourtant.
Les guides pour les touristes, c'est pas du bon travail. En général, ils sont écrits par des Indiens paresseux.
Oh,
suivez-moi.
Il y a d'autres films, vous avez... Escrocs mais pas trop, par exemple, qui est un film, bon, qui est amusant. Il est de Woody Allen. Woody Allen, c'est quand même un réalisateur. Et personnellement, j'ai bien aimé cet humour qui permet de faire passer quand même quelques idées fondamentales avec une certaine détente, quoi. Il faut pas non plus qu'on vienne au cinéma pour se casser la tête.
Tu te rappelles mon surnom quand on était en tôle?
Le cerveau.
Le cerveau, c'est comme ça que les gars m'appelaient.
Ouais.
C'était ça, vrai.
Ça, c'était sarcastique.
Frenchie, j'ai une idée brillante. De quoi nous faire devenir riches.
Qu'est-ce que tu vas faire, hein? Dévaliser une banque?
Comment tu sais ça? C'est fantastique.
Le départ au cinéma est toujours le besoin de détente, quand même. C'est agréable le cinéma, même si ça n'empêche pas une réflexion.
Vous parlez de détente, c'est pas des films forcément de divertissement, quoi qu'il y en ait qui aillent un peu sur cette pente, mais c'est surtout leur date de production. Ce sont des films assez récents, quand même, hein, que vous avez choisis.
Je dirais que c'est accidentel. On ne cherche pas des films qui sont sortis en 2005 ou en 2008. Il se trouve que ce film-là, lorsqu'on dit quand est-ce qu'il est sorti et qui l'a fait, bon, ce sont des arguments supplémentaires. C'est vrai qu'il nous est arrivé de passer des films de 1940. C'est quand même plutôt rare, effectivement. Parce que le but du cinéma tel que nous le concevons, c'est de nous donner une image de la vie d'aujourd'hui. Alors, un film en 1940, il programme... Alors, il y a des vérités éternelles qu'on retrouve. Mais il nous semble quand même que le fait d'appréhender une situation humaine de 2005, ça nous concerne davantage. Et donc, ça permet aux hommes et aux femmes qui viennent au cinéma, peut-être de réfléchir sur le comportement d'aujourd'hui.
Il y a la projection des films, effectivement, hein, qui ont été sélectionnés sur ce thème de l'argent. Et ensuite, donc, il se passe quelque chose qui ne se passe pas forcément dans une salle de cinéma, c'est-à-dire que vous proposez un débat.
Oui. Alors ça, pour nous, c'est très important. C'est de permettre à des gens de pouvoir exprimer quelque chose. Et on entend parfois à la sortie, tiens, j'avais pas vu ça, moi, dans le film. Le but, c'est de partager. Il ne s'agit pas de faire passer une idée. Les animateurs ne sont pas des prédicateurs. Ils sont là uniquement pour permettre l'expression de l'autre. Donc, ils font passer le micro à un tel. Et puis, au bout de 35, 40 minutes, on dit, mais merci. Et chacun, ça va de son côté. C'est une aide au regard. Parce qu'effectivement, il y a telle scène, ah tiens, j'avais pas vu ça. Ça arrive, ça, quand on voit au cinéma. Donc, on s'aide à mieux appréhender le film. C'est un peu le but. Alors, nous commençons la veille, hein, l'ouverture officielle, c'est le dimanche 23 à 16h30 au Corone, avec Sous le nom millionnaire. Mais nous avons une programmation précédente, c'est le samedi, où nous allons passer Des hommes et des dieux. Un film qui a fait un certain renom en France, puisqu'il a dépassé les 4 millions de spectateurs, ce qui a étonné beaucoup, beaucoup de monde, étant donné le sujet et l'austérité du film, parce que je veux dire qu'il n'y a pas grand-chose qui fasse rire dans ce film. Mais il y a peut-être là la révélation d'un certain besoin spirituel.
Jean-Pierre,
faut rester. Depuis quand on obéit aux armes?
Paul, je pense qu'il faut partir. Progressivement. Célestin?
Je suis malade, je veux partir.
Luc?
Partir, c'est mourir. Je reste.
Justement, parlons des hommes et des dieux. Donc, il est hors du thème, hein, de cette année. Alors, il se trouve que c'est un film, justement, qui parle de ces moines de Tibérine.
Oui.
Donc là, on est à fond dans une présence chrétienne.
Oui.
Et c'est peut-être là où on vous attendait le moins, finalement, de présenter des films où il y a effectivement une présence religieuse notoire.
C'est vrai que ça n'est pas l'objectif premier du festival. Mais quand on a comme ça une perle qui sort, parce que c'est plutôt assez rare, on s'est dit, on ne va pas passer à côté quand même. D'autant plus qu'on a été interrogé là-dessus. Il y a des gens qui nous ont appelés ou qui sont venus à la fois aux associations dire « Vous passerez des hommes et des dieux ?» parce qu'on n'a pas pu le voir, etc. Donc, on s'est dit à la fois en service et puis en même temps, on souligne quand même quelque chose qui nous tient à cœur, même si ça n'est pas l'objectif du festival.
Il faut réfléchir et prier ensemble.
Voilà, mais c'est pas ce qu'on vous propose, hein, avec ce festival, effectivement. Donc, le thème, c'est l'argent. Et alors, il y a des films qui sont... Enfin, là, j'ai pas toute la programmation parce qu'il se trouve que j'ai oublié mon dossier de presse. Mais il y a des films qui sont peut-être un peu éloignés parfois, je pense, du thème, notamment Soul Kitchen de Fatih Akin, qui est sorti l'an dernier. En revanche, pardon, il y a Lord of War d'Andrew Niccol, hein, sur cet homme qui est donc interprété par Nicolas Cage, qui est un trafiquant d'armes. Donc là, je pense qu'on est un peu au cœur du sujet. Il y a It's a Free World de Ken Loach. Donc là aussi, on est dans le thème parce que c'est la main-d'œuvre pas chère en Angleterre. Il y a À l'origine de Giannoli. Donc là, il est question d'un escroc. Donc voilà, effectivement, attiré par l'argent, mais pas par l'argent légal, si on veut. Et puis, il y a L'ivresse du pouvoir de Claude Chabrol. Donc là, c'était autour de l'affaire Elf. Et il y a d'autres films. Donc vous pouvez trouver la programmation sur chrétienculture.free.fr. Et ce festival se déroule essentiellement Salle Rabelais, sauf l'ouverture qui se déroulera au Quorum avec Slumdog Millionnaire. Nous passons à We Are Four Lions, la satire de Chris Morris. Alors vous avez sans doute entendu parler de ce film car il a fait polémique, car il met en scène des bras cassés voulant rejoindre la cause du djihad en Angleterre. Peut-on rire du terrorisme ou se poiler en regardant des terroristes? Doit-on davantage traiter le terrorisme comme le ferait Assayas avec Carlos dernièrement, ou Spielberg avec son Munich, ou encore, pour rester dans le terrorisme palestinien, le très bon Paradise Now de Annie Abou Assad, ou comme Uli Edel avec la bande à Bader, et je vais me permettre de donner le titre original, Der Bader-Meinhof Complex. Alors nous ne répondrons pas à cette question, on peut juste dire qu'il y a peu de comédies sur fond de terrorisme, mais cette année déjà sur les écrans indiens est sorti le film bollywoodien Sans toi, l'Aden, qui a été purement et simplement censuré au Pakistan voisin, car les autorités craignaient une vague terroriste, bien justement, car le l'Aden du titre de Sans toi, l'Aden, c'était Ben Laden, et il était tourné en ridicule. Alors... Les terroristes et autres fondamentalistes religieux n'ont pas un sens très développé du pastiche, de la parodie, de la guignolade, et préfèrent de toute façon restreindre les choix culturels en les censurant, ce qui là non plus n'est pas très drôle, mais Chris Morris lui donne dans la satire, et comme il est anglais, il ne va pas se gêner, puisque la censure le laisse à peu près tranquille, aucun apprenti taliban dans les parages pour lui dire de s'arrêter avant le massacre. We Are Four Lions est donc une comédie avec un postulat très simple, comment faire un gros coup en Angleterre d'un seul coup. Ils seront 4, puis 5, puis 4 à tenter d'échafauder un plan avec une lutte de chef entre le jeune Omar, qui parle en toute décontraction de son projet à femme et enfant, et Barry, qui est un anglais pur souche reconverti à un islam exotique. Les autres, il y a un neuneu, un simplet et un rappeur. Chris Morris enchaîne les bavardages absurdes, moquant les justifications à la guerre sainte. Le comique de situation, souvent dans l'outrance, un terroriste qui mange une carte SIM pour ne pas être repéré, c'est assez stupide. Un terroriste qui s'en va tous les jours acheter un produit pour fabriquer une bombe au même endroit, ça manque de rigueur. Voilà quelques exemples des situations qui nous sont imposées. Comme tout est tourné en ridicule, rien n'a d'épaisseur, il manque désespérément un fond derrière les gesticulations des personnages. Alors on n'est jamais à l'abri de quelques scènes bien cocasses, et leur plan final est d'une vraie drôlerie, mais c'est tout ce que l'on subit avant d'en arriver, donc aux trois quarts des films qui peut paraître un peu indigeste. We Are Four Lions s'est projeté au cinéma Utopia. Après, si vous aimez les films complètement absurdes et loufoques, ça peut aussi tout à fait vous convenir. Moi, j'avoue que je n'y ai pas vraiment trouvé grand intérêt et grand plaisir.
Alors, quelques mots maintenant des sorties, rapidement, des sorties en salle de ce mercredi. Plusieurs films, dont l'événement de ce mercredi, c'est bien sûr le nouveau Clint Eastwood. Après avoir enterré son personnage de justicier en grande pompe dans Grand Torino, le vieux Clint se penche à sa façon sur la vie après la mort. Un film choral, fantastique, où se croisent plusieurs personnages qui ont un lien étroit avec la mort. Donc ça s'appelle L'Au-delà. Et après Peter Jackson et son Lovely Bones, Clint Eastwood va peut-être réaliser la casserole de sa carrière. Avec Matt Damon en fil rouge de cette histoire, c'est plutôt bien parti. Voilà, beaucoup de critiques ont parlé d'un grand mélo de la part de Clint Eastwood, peut-être son premier attage.
Ah, moi j'ai entendu d'autres sons de cloche. Hein. J'ai entendu que finalement, vu que c'était Clint Eastwood qui s'en emparait, justement, on s'éloignait de la mièvrerie, de la niaiserie, et ainsi de suite.
Mais bon. En même temps, c'est vrai qu'à chaque nouveau Clint Eastwood, il y a toujours des critiques, une partie de la critique qui s'esbobille de la dernière production de Clint Eastwood. Déjà, l'échange avec Angelina Jolie, c'était pas non plus mémorable.
Invictus, pour moi, c'était vraiment un film plat.
Je l'avais pas vu, mais voilà, il y avait des critiques qui disaient que c'était un peu moyen, un peu médiocre pour Eastwood. À voir cet au-delà, je vous propose d'écouter un petit extrait de la bande-annonce.
Donnez vos mains. En fait, je n'exerce plus.
Il a eu des locaux, un site internet, des articles de presse et même un bouquin écrit sur lui.
Qu'est-ce qui s'est passé ?
Il a craqué.
Je peux te poser une question ?
Avant, je travaillais comme médium.
Tu crois pas qu'il peut y avoir quelque chose, un au-delà ? Je vous reconnais, vous êtes le médium.
Écoute, petit, sache que je n'exerce plus.
Je vous donne ma parole, je ne le dirai à personne.
Tu as le devoir de le faire. Tu as un don. C'est une malédiction, c'est pas un don.
Voilà un extrait de la bande-annonce de L'Au-delà de Clint Eastwood qui sort en salle aujourd'hui.
Alors... Tu vois, on a entendu une chanson derrière, une chanteuse qui chantait une chanson mièvre.
Oui, donc je sais pas, moi la bande-annonce...
Peut-être qu'un autre
envie.
Réalisateur aurait pris Céline Dion, lui il l'a pas fait.
C'est vrai, tu vois, il est tapé dans la pop sympathique. Donc voilà, Clint Eastwood, on en parlera sans doute la semaine prochaine quand on l'aura vu. Une autre sortie de ce mercredi, alors pendant qu'en salle tourne actuellement Stretch, le dernier film de David Carradine. David Carradine, mort depuis un bon moment et qui était décédé donc pendant le tournage de ce film Stretch, eh bien un nouveau fantôme vient hanter nos écrans aujourd'hui, c'est celui de Guillaume Depardieu. Donc dans son dernier film, là ce sera le dernier, ça s'appelle L'enfance d'Icar et ça raconte l'histoire de Jonathan Vogel qui, suite à un accident, a perdu l'usage d'une de ses jambes, ça vous rappelle sans doute quelque chose, et un professeur lui propose d'essayer un traitement révolutionnaire qui devrait changer sa vie. Mais cette proposition finalement se transforme en erreur médicale et va entraîner donc Jonathan Vogel sur le chemin du cauchemar. Je vous propose à nouveau d'écouter la bande-annonce.
Vous devez me faire confiance.
Nous n'affirmons pas l'être humain peut vivre plus longtemps, mais nous affirmons l'être humain est potentiellement immortel. Et son corps est indestructible.
Dites-moi ce que vous ressentez exactement.
Des bruits dans ma tête, tout le temps.
C'est Alice. Venez avec moi.
Elles sont heureuses.
Elles connaissent le chemin.
Le chemin.
Laisse-le partir, s'il te plaît.
Voilà, un petit côté Gaspard Noé dans cette bande-annonce, moi, je trouve, avec la grosse électro.
Techno-indus, là, ouais. Et des cris.
Ouais. Voilà, donc un film pour lequel Guillaume Depardieu s'est bien sûr particulièrement investi, vu le scénario qui évoque son parcours personnel. Lui aussi avait perdu une jambe suite à un accident. Donc voilà, un film qui a l'air assez spécial, assez expérimental. Je ne sais même pas s'il est projeté à Montpellier, mais si vous le voyez à l'affiche d'un cinéma, n'hésitez pas, ça peut être intéressant. Pour terminer avec ces sorties, alors un film de genre français, d'habitude ce sont les Espagnols qui nous régalent de ces films avec un scénario autour d'un fantôme dans une maison, les Espagnols ou les Japonais bien sûr. Dans ce film, propriété interdite, deux bourgeois français héritent de la maison de famille de l'épouse. Maison de famille dans laquelle le frère de la femme s'est récemment suicidé. Donc rapidement, les phénomènes paranormaux interviennent. Dans cette maison, le mari veut lancer les travaux au vent de la maison. La famille est bien sûr un peu plus attachée, mais ils se rendent compte qu'ils ne sont peut-être pas seuls dans la maison. On écoute la bande-annonce.
T'inquiète pas, mon amour, on va tout remettre en état. Là.
Qu'est-ce qu'on va trouver dans celle-ci ?
C'était notre chambre à Michel et moi quand on était petits.
Excuse-moi.
Ah ! Là !
Quoi ?
Il était là.
De qui tu parles ?
Il était là dans la cuisine, derrière l'alcôve. Il me fixait là.
J'avais tout fermé.
Il y avait quelqu'un, je te dis. Il a filé.
Tu dors pas. Tu dors pas.
Allô Michel, t'es où ? Est-ce que tu peux arrêter de me faire peur ?
Envoie des SMS à ton frère.
Tu fouilles dans mes affaires ?
Je t'aime. Dis-moi ce que je dois faire et je le ferai. Je suis à bout, tu vois pas ? Je peux me mettre entendre des trucs moi aussi.
Il est à bout de l'heure, hein ?
Claire !
Quand est-ce qu'on vend cette maison ?
Coucou Claire, c'est moi, ton frère chéri. Ça fait longtemps que t'es pas venu.
Voilà, donc propriété.
C'est pas évident, ça. Hein.
Propriété interdite. Donc une excursion des Français dans le genre de maison, des maisons hantées. Peut-être une bonne surprise. Je crois que le magazine Mad Movie, spécialiste du cinéma fantastique et du cinéma d'épouvante, a plutôt apprécié. Donc voilà, à voir. Et puis d'autres sorties ce mercredi, dont le Thanato, avec Gérard Meilan, sur l'histoire d'un thanatopracteur, donc quelqu'un qui prépare les morts avant les cérémonies d'enterrement. Un thriller français, je crois, qui a l'air intéressant. Je ne sais pas non plus si c'est programmé sur Montpellier. Donc voilà pour les sorties de la semaine. Moi, je vous dis à la semaine prochaine, puisque je dois m'en aller. Je vous laisse en compagnie de mon collègue Vincent, qui va vous parler d'un autre film assez intéressant, dont j'avais déjà parlé dans cette émission. À la semaine prochaine.
Alors, t'aurais pu le faire à la Valérie Giscard d'Estaing. Au revoir.
Au revoir.
Et on n'entendait pas comme ça au loin. Tout ça est possible avec la radio maintenant. Merci Martin, et à la semaine prochaine. Alors, bien, je vais vous parler effectivement des films qui passent à l'Utopia. Ils sont nombreux parce que Utopia, eh bien, laisse la chance aux films de faire leur petite carrière. Alors, il y a toujours Des Hommes et des Dieux de Xavier Beauvois, En promenade, c'est un programme de 6 films d'animation. Faites le mur, un film sur le pocheur Banksy. Fort Apache, alors je sais pas si ça se dit comme ça, Martin, avant de partir, t'as une petite...
Fort Apache, je crois.
Voilà, de Marco Risi. Il y a Le Narcisse Noir, un vieux film de Michael Powell et Emeric Pressburger. Alors, c'est une copie neuve restaurée. Il y a Le Nom des Gens, dont j'avais fait la chronique tout à l'heure, de Michel Leclerc. Le Quattro Volte de Michelangelo Frammartino. Les Duellistes de Ridley Scott. Les Rêves dansants sur les pas de Pina Bausch. Là aussi, c'est un film qui a débuté sa carrière au mois de novembre. Il y a Même la pluie de Issiar Bolein, c'est un film espagnol. Il y a Les Mystères de Lisbonne, ça c'est le grand film d'une durée de 4 heures de Raoul Ruiz. Il y a Potige de François Ozon avec une séance bébé, c'est-à-dire que vous, si vous êtes mère, père, eh bien vous pouvez venir avec vos enfants, ils peuvent brailler dans la salle de cinéma. Et donc ça c'est samedi à 13h45. Il y a We Are Four Lions, c'est la dernière semaine où ce film passe, ce film que j'ai aussi chroniqué, film de Chris Morris. Alors, on passe aux séances spéciales avec Illégal, donc d'Olivier Masset de Passe, un film sur l'immigration, les centres de rétention et le déchirement mère-fils. C'est une soirée unique, projection suivie d'un débat. C'est demain à 20h. Il y a aussi le Quattro Volte de Michelangelo Frammartino. C'est un film entre documentaire et fiction, fable et poésie, où l'humain, l'animal, le végétal et le minéral se conjuguent. Alors, il paraît que c'est un film vraiment, vraiment très, très beau. C'est un petit déjeuner à 10h le dimanche 23 janvier. Et donc, eh bien, ce petit déjeuner sera suivi de la projection. Et puis, on va parler de Ciné Campus. Alors, effectivement, Martin avait déjà reçu eh bien, la responsable de cette programmation Ciné Campus. C'était au mois de décembre. Et là, ce sera eh bien, le 25 janvier à partir de 20h. C'est le film L'échelle de Jacob d'Adrian Lynn, film de 90. Ce sont les cauchemars d'un employé de la poste new-yorkaise.
Fais-moi sortir d'ici.
Vous savez pas trop.
Où voulez-vous aller?
Chez moi.
Chez vous, c'est ici. Vous êtes mort, Singer.
Quoi? Non. Non, j'ai juste un peu mal au dos. Je suis pas mort.
Vous êtes quoi, là?
Vivant. Vivant.
Qu'est-ce que vous faites ici?
Ça, j'en sais rien. Non, c'est impossible.
Qu'est-ce qui est impossible?
Je veux aller ailleurs.
Il n'y a pas d'ailleurs. Vous avez été tué. Vous ne vous rappelez pas?
Voilà. On a entendu quand même des bordalos avec des esprits torturés aujourd'hui dans Cinérama. Voilà, donc tous ces films eh bien, passent à l'Utopia pour avoir les horaires, le programme. Soit vous vous procurez la Gazette de l'Utopia dans certains points à Montpellier, ou alors eh bien, vous allez sur le site internet cinéma-utopia-montpellier.com. J'avoue que je l'invente parce que je ne l'ai pas noté, mais en tout cas, vous tapez sur Google Utopia Montpellier et vous irez sur le site et vous aurez même les programmes jusque fin février. Ainsi s'achève Cinérama. On remercie Bruno à la technique. Un Bruno quand même relativement détendu grâce au nouveau matériel que nous avons reçu ici à Divergence avec des coups de peinture de ci, de là, qui fait que nous avons plaisir maintenant à nous retrouver pour Cinérama. Et ce sera le cas la semaine prochaine. À la fin de cette émission, on va écouter un extrait. Cet extrait a été pris dans le film La folie des grandeurs avec l'un des dialogues les plus connus, c'est le réveil de Louis de Funès. Par Yves Montand. Alors j'ai choisi cet extrait bien tout simplement pour le relier au Festival chrétien du cinéma avec son thème l'argent. Et alors, voilà. Bonne semaine de cinéma et restez à l'écoute de Divergence FM.
C'est l'or, il est l'or, l'or de se réveiller, Monseigneur, il est 8h, oui, oui, oui.
Il en manque une.
Cinérama.
Vous êtes sort? Tout à fait sort.
Alors. Sur Divergence FM.
Excusez-moi encore de vous avoir dérangé. Si vous avez besoin de quoi que ce soit, n'hésitez pas à nous téléphoner. Vous faites le 17, c'est facile.
Non, c'est le 14.
Non, le 14, c'est les télégrammes.
Mais les pompiers,
Les pompiers, c'est le 18. D'ailleurs, si vous voulez vous renseigner, faites le 12. Sans rancune.